France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Grazia.
Musique et moi.
Hubert Védrine.
Elsa Boublil.
C'est sur ce titre tellement connu de La Guerre des Étoiles, Star Wars de George Lucas, composé par John Williams, que nous vous accueillons, Hubert Védrine. Bonjour.
Bonjour.
Alors c'est le côté lumineux de la force, hein. C'est un peu l'impression que vous nous laissez, vous qui avez été pendant 19 ans au cœur du pouvoir, dont 5 ans au Quai d'Orsay, et qui analysez depuis les défis auxquels est confrontée notre planète. Explosion démographique, flux migratoire, urgence écologique. Cette musique de Star Wars donc pour vous accueillir, car comme les Jedi, vous travaillez et réfléchissez d'une certaine manière à comment maintenir la paix, qui n'est pas une tâche facile, Hubert Védrine.
Moi, j'adore écouter la musique, le thème principal de John Williams, parce que c'est tellement efficace qu'on voit les images en même temps, aussitôt, qui se surimposent. Et c'est d'ailleurs dans la... Pour moi, alors que j'ai découvert la saga de Star Wars, surtout les 6 premiers, à l'âge tout à fait adulte, ça a la même force que des musiques d'enfance, en fait. Parce que ça atteint quelque chose de profond. Et merci de vos compliments, j'aimerais bien être... En effet, une sorte de Jedi, bon, c'est nombreux à aimer ça, plutôt que l'inverse, mais avec le temps qui passe, je risque de devenir une sorte de maître Yoda.
Oui, oui peut-être, mais en tout cas, vrai qu'on sent que vous essayez de nous apporter des clés, toujours aujourd'hui, à comment gérer cette planète qui est de plus en plus mondialisée d'ailleurs.
Oui, mais en dehors de la musique, ce que j'essaye de faire, moi, depuis que je m'exprime publiquement, c'est de rendre notre pays moins chimérique. Parce que la France, c'est un pays formidable, mais on est quand même grandiloquent, on croit des choses incroyablement creuses, on pérore pour nous-mêmes, on adore l'universalisme quand il faut se projeter sur l'univers, mais pas en sens inverse, évidemment. Bon, donc tout ce que je dis qui parfois, déçoit, c'est pour rendre le regard plus réaliste et plus adapté à cette espèce de chaos mondial dans lequel nous sommes.
Et la musique dans tout ça, est-ce que justement elle peut résoudre d'une certaine manière des problématiques chaotiques ?
Non, pas résoudre, sinon, grâce à tout ce qu'a fait Barenboim, pour citer que cet exemple, il y aurait la paix au Proche-Orient depuis longtemps. Non, ça ne peut pas résoudre, simplement ça aide à vivre.
On va passer 7h30 ensemble sur France Musique jusqu'à donc 12h30. Et donc, pour commencer, pourquoi pas, Pierre et Leloup.
C'est alors que les chasseurs sortirent du bois. Suivant les traces du loup et tirant force coups de feu en marchant. Pierre, assis dans l'arbre, leur cria « Ne tirez pas ! Petit oiseau et moi, nous avons pris le loup. Aidez-moi maintenant, il faut le transporter au jardin zoologique. »
Un extrait de Pierre et le loup avec Madeleine Renaud comme récitante et l'Orchestre National de la RTF sous la direction de Laurine Mazel. Prokofiev, Pierre et le loup, c'est vraiment un classique de l'enfance des personnes, je crois, de votre génération et pas que de votre génération. Mais on sent, Hubert Védrine, que dans les années 50, les enfants qui ont grandi dans les années 50, Pierre et le loup, c'était presque un incontournable.
En général, j'en sais rien, mais je sais que dans mon cas particulier, ma mère et ses deux sœurs, qui avaient des enfants, donc toute une bande de cousins-cousines, nous avaient inscrits au Musigrain.
Musigrain.
C'est une organisation qui existait à l'époque, et donc on nous emmenait à des concerts. Donc pour moi, c'est vraiment l'enfance, ça.
C'était un plaisir pour vous ? Ça se passait comment ?
Je ne sais pas si c'était une corvée ou un plaisir. Je crois que... En y allant, j'avais pas envie parce que j'avais des choses plus amusantes à faire, certainement. Peut-être lire des Tintins ou, je sais pas, faire du mécano, enfin des choses comme ça. Et puis après, c'était un plaisir, mais parce qu'on était en groupe, donc c'est plutôt après. Donc ce que j'en dis maintenant, c'est évidemment une reconstitution.
Vous avez grandi où, Hubert Védrine ?
À Bois-Colombes. Une belle maison, un grand jardin qui était rempli les week-ends de toutes sortes de gens, de familles, d'amis, tout ça, et... L'autre point important de ma vie d'enfance et après, c'est la maison de famille où je suis né, dans la Creuse, à côté d'Aubusson, une maison qui s'appelle Chélivet, à côté de Saint-Sylvain-Bellegarde, qui était la maison de vacances de mon grand-père maternel, maître verrier à Limoges, Francis Chigaud, un et très grand maître verrier, dont on prépare d'ailleurs une exposition
de
ses œuvres pour deux ou trois ans. Et tout ça, c'est lié.
Et c'était un endroit familial, de plaisir, de joie, de
douceur. C'était un peu des vacances à l'ancienne.
Oui, c'est-à-dire
une grand-mère qui contrôle tout ça, une grande maison, des habitudes, des rituels, des choses comme ça. Dont un peu de musique, puisqu'il y avait une prof de musique qui venait pour faire travailler mes cousines. Pas moi, je ne sais pas pourquoi.
Vous ne pratiquez pas le piano ?
Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas moi qui avais choisi, mais j'ai dans l'oreille le souvenir des leçons.
Tiens, on va essayer de se souvenir des scènes d'enfants de Schumann.
Thank you.
les scènes d'enfants de Robert Schumann interprétées par Lang Lang. Et quand Robert Schumann l'a envoyé ce recueil à Clara, il lui a écrit « Est-ce une réponse inconsciente au sens des mots que tu m'écrivais un jour ? Tu me fais parfois l'effet d'un enfant. S'il en est ainsi, tu verras que les ailes ont poussé à cet enfant. Tu prendras sans doute plaisir à jouer ces petites pièces, mais il te faudra oublier que tu es une virtuose. Et il faudra te garder des effets, mais te laisser aller à leur grâce, toute simple, naturelle et sans apprêt. » Pour vous replonger, Hubert Védrine, dans cette enfance qui vous ramène à vos vacances d'enfance, familiales, donc dans la Creuse, Hubert Védrine, vous parliez d'une madeleine musicale en l'écoutant.
Oui, c'est typique parce qu'en écoutant ça, c'est cet air-là, plus deux ou trois autres qu'on on travaillait beaucoup à l'époque, je pense le Nocturne numéro 2 de Chopin, la Lettre à Élise, enfin des choses comme ça, je revois la scène, je revois la grande maison de chez Livet, je vois cet endroit qui s'appelle la salle de jeu, où il y avait le piano. Je revois la prof de piano qui s'appelle Annette, et Annette Clément-Bosselu, ça m'amuse de prononcer son nom ici. Et puis je vois les cousines, en tout cas celles de ma génération, vous voyez, qui travaillaient les unes après les autres, Marie-France, Catherine, Martine, etc. Voilà, je vois, j'entends.
Oui, vous entendez. Est-ce que ça reste un moment, la musique qui fait sens? Est-ce que ça fait sens dans cette enfance qui était la vôtre?
C'est l'ensemble. Je ne peux pas dissocier l'atmosphère, la maison, la grande famille, les repas, puis tous les rites extraordinaires de la campagne. Mais la musique en fait partie. Je ne peux pas l'imaginer sans la musique, mais ce n'est pas que la musique.
Qu'est-ce que faisaient vos parents? Quelle a été votre perspective de vie, si vous en aviez une, Hubert Védrine?
Moi, j'ai vécu enfant dans un milieu très, très ouvert. Ouvert sur la famille, sur les amis. Je me rappelle quasiment pas d'un dîner où il y avait personne d'invité à dîner. Des week-ends très ouverts avec beaucoup d'amis étrangers. Donc j'ai vécu tout le temps dans un milieu très ouvert. On a le sentiment qu'il n'y avait pas de stratification sociale. Mmh. Alors que c'était, on dirait aujourd'hui, si on veut faire entrer ça dans des boîtes, on dirait classe moyenne supérieure, mais avec un mode culturel des élites, mais avant les élites. Bon, en tout cas, c'était très ouvert et... en ce qui me concerne, et les amis intimes que je me suis fait très vite au lycée, on a eu le sentiment qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, qu'il n'y avait aucune limite à rien, que c'était l'ambition, mais au sens le plus léger, le plus pétillant du terme. Donc voilà sur quoi je repense quand je pense à mon enfance.
Et à cette adolescence, a visiblement tourné vers le cinéma, Hubert Védrine.
Non, j'ai pas été tourné vers le cinéma. Mes vraies passions culturelles du début, c'est la lecture. J'étais un fou de lecture très tôt. La bande dessinée aussi, j'adore encore maintenant, mais la lecture. Puis parler avec mes amis, on était capable de venir se passer d'une maison à l'autre au milieu de la nuit pour parler d'un livre qu'on avait découvert, enfin des choses comme ça. Le cinéma s'ajoute à ça. Le cinéma est très important pour moi parce que dans la période, alors pas de l'enfance, mais de l'adolescence, c'est souvent par le cinéma que j'ai découvert des œuvres musicales magnifiques. C'est par ce cheminement.
Et est-ce que vous avez découvert Le Guépard de Visconti par l'œuvre de Tomasi di Lampedusa?
Pas du tout.
Non.
Je l'ai découvert après.
On va pouvoir en parler.
Thank you.
le thème principal du Guépard de Visconti, avec une musique composée par Nino Rota et interprétée ici par l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome sous la direction de Franco Ferrara, qui est l'orchestration originale du film. Alors, c'est donc un film de Visconti adapté du roman éponyme de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, sorti en 1963, Palme d'or en 63. Hubert Védrine, c'est vraiment... vous l'avez découvert en temps réel ?
Non, pas du tout.
Non ?
J'avais autre chose en tête, ma vie était occupée par mille autres choses. J'ai découvert ça pendant mon service militaire, en 1971.
Ah oui.
Et j'ai découvert Visconti, parce que j'avais vu un ou deux films, mais ça ne m'avait pas frappé à ce point-là. Et j'ai découvert Nino Rota. C'est devenu mon film fétiche. Je crois que je l'ai vu 30 fois, je l'ai vu dans les différentes versions, oui, avec les différents langages. Et je trouve d'ailleurs que les voix en français, qui sont des voix de doublure, oui, en fait, sont beaucoup plus belles.
Ah, elles
notamment
vous plaisent plus.
Celle du prince. Oui. Et sublime, sublime.
Et qu'est-ce qui vous plaît?
En italien, c'est moins extraordinaire. En anglais, c'est plus banal. Et j'aime tout dans ce film. Alors évidemment, là, je ne vais pas revenir sur le bal. Est-ce que vous savez que Régis Debray, dans sa jeunesse, avait été envoyé pour faire des piges par les Cahiers du cinéma et qu'il a assisté au tournage?
Ah non, pourtant il est venu ici, il ne nous l'a pas raconté.
Et alors longtemps après, quand j'étais ministre, j'ai eu une réunion à Palerme et je suis sorti des débats pendant une heure pour aller voir la salle du bal. Tout me plaît, mais pas forcément les moments les plus spectaculaires. Par exemple, je trouve que la discussion qui a lieu entre le prince Burt Lancaster et d'autre part l'envoyé de Cavour, Chevalet, une sorte de technocrate quoi, de l'époque, un petit homme qui veut convaincre les grandes figures des grandes familles de Sicile de se rallier à la République Nouvelle, et le prince lui dit c'est trop tard, nous avons été des lions, des guépards, et nous sommes que des chacals maintenant, et nous sommes endormis dans un sommeil perpétuel. Enfin, je trouve ça extraordinaire.
Donc c'est aussi l'aspect politique du film qui
oui, mais je ne l'ai pas vécu comme ça. C'était l'aspect épique, aventureux, romanesque. J'ai découvert le roman après. Vous savez que l'auteur extraordinaire de ce livre est mort désespéré parce que son livre était rejeté.
Oui.
Il était refusé. Oui. C'est incroyable comme contraste. Donc c'est tout ce qui me plaît. Et puis cette mise en scène inégalable par Visconti d'un monde qui s'effondre. Et ça n'a que trop de correspondance, malheureusement, avec ce que nous vivons.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Et le rôle de la musique dans le cinéma de Visconti n'est pas des moindres, Hubert Védrine. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez découvert finalement la musique aussi par le biais du cinéma.
Oui, j'avais des souvenirs d'enfance, j'avais ce milieu familial très ouvert, ma mère qui faisait du piano, enfin un environnement, c'était plus un environnement, vous voyez, une ambiance. Mais c'est à travers des grands films comme Le Guépard, donc je trouve Nino Rota, c'est par ce biais que j'ai découvert Prokofiev et beaucoup d'autres.
Et qu'est-ce qu'imprime la musique? Là, vous le disiez, vous reconnaissiez le thème principal en écoutant Le Guépard, vous ne vouliez pas qu'on diffuse le bal. Bon, bien sûr, Visconti, c'est aussi Mort à Venise.
Bal, mais c'est trop connu. Hein.
Oui, Mort à Venise aussi, avec la cinquième de Mahler.
Oui, bien sûr.
Vous me disiez tout à l'heure que c'était important pour vous, d'après vous, la place qu'occupait la musique dans le cinéma de Visconti.
En tout cas, dans les cas dont nous parlons, c'est inséparable. Vous ne pouvez pas imaginer le Guépard sans Rota, ni Mort à Venise sans Mahler. C'est impossible. Donc on voit bien, ça forme un tout. On ne peut pas démêler artificiellement après. Et d'ailleurs, on ne pourrait pas réécouter les musiques séparées des images avec tout ce que ça nous évoque instantanément, si ça n'était pas une réussite magnifique. Donc il y a une combinaison de talents, et puis c'est ce qu'il y a de magique quoi, dans la création. On ne peut pas séparer.
Comme un autre film dont on va parler dans quelques instants, qui est Laurence d'Arabie, où là, la musique a aussi tout à fait sa place, composée par Maurice Jarre.
Thank you.
un extrait de l'ouverture de Laurence d'Arabie de David Lean sur une musique de Maurice Jarre interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Londres sous la direction de Adrian Bolt. Et Hubert Védrine, ça fait partie des musiques, en tout cas des films qui ont compté pour vous et donc des musiques. Puisque vous disiez
oui, mais alors
que
c'est venu dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est d'abord le film, le sujet qui m'a attiré. Puis j'ai adoré cette épopée, j'ai adoré ce personnage. Et puis j'ai commencé à lire Malraux à l'époque, et qui en parle souvent, Laurence d'Arabie. C'est longtemps, longtemps après que j'ai quand même vu que c'était plus compliqué, enfin, ce jeu britannique, enfin, en gros consistant à exciter le nationalisme arabe pour démanteler l'Empire ottoman, mais sans tenir aucun compte des promesses faites aux nationalistes arabes dans le partage de l'ancien Empire ottoman. Au départ, c'était prévu entre Russie, Italie, France, Grande-Bretagne. À l'arrivée, c'est que France, Grande-Bretagne, les fameux accords Sykes-Picot. Et puis, Laurence d'Arabie s'est fait avoir, quoi. Il s'était fait instrumentaliser dans l'affaire et lui-même a instrumentalisé les différents leaders ou, disons, monarques arabes de l'époque. Donc, c'est l'aspect politique, géopolitique, déjà, qui me passionnait. C'est après que je me dis, mais quand même, quel talent, et que je m'intéresse à David Lean, et que je m'intéresse à Maurice Jarre, après, c'est dans l'autre sens.
Donc,
mais
oui.
Finalement, avec le recul maintenant, ça s'additionne au moment clé de la mémorisation, de l'émotion, de la compréhension, ça fait partie d'un ensemble. Mais c'est pas pour découvrir une musique, vous voyez, que ma passion s'est développée pour ce film.
Donc c'est cette époque d'adolescence aussi, où vous êtes lecteur, vous allez pas mal au cinéma.
Surtout lecteur.
Rien ne se profile pour vous. Vous me disiez être en décalage avec les adolescents de votre âge.
Je l'ai trouvé ennuyeux, souvent encore que j'animais avec plusieurs de mes copains qui sont restés des amis intimes, un club UNESCO que mon père avait fait créer, qui était pas du tout enseignant, bref, il avait créé un club UNESCO dans ce lycée, et ça nous servait de lieu de respiration, parce qu'on invitait des personnalités, des journalistes, on organisait des voyages au Maroc, à Berlin, des choses comme ça. Donc c'est très vague, mais comme on a le sentiment avec le petit groupe là, que tout est possible si on le veut, si on le veut vraiment, il n'y avait pas du tout l'idée de compétition, il n'y avait pas du tout l'idée de présenter tel ou tel concours. Avec le recul, ça me paraît presque incompréhensible d'avoir vécu dans une espèce d'état de légèreté, un mélange d'ébriété optimiste par rapport à ça. Bon, enfin bon, ça a fonctionné comme ça. Et c'est un prof d'histoire géo, si je me rappelle bien, en seconde, qui me dit « Mais c'était bien votre exposé, vous devriez penser à faire Sciences Po ». Je dis « Quoi ? C'est quoi Sciences Po ?» Parce que, en fait, mon père avait été saisi par la guerre, il avait dû s'engager, et en 39, il a pas fini ses études supérieures. Et ma mère non plus. Donc, j'étais pas d'une famille, disons, comme les grandes bourgeoisies qui se transmettent le patrimoine culturel et de diplômes de génération en génération, etc. Ils vivaient dans un monde comme ça, mais par les hasards de la guerre et la redistribution des rôles. Donc, moi, l'idée me vient tardivement. Mon copain Patrick Rabin, qui avait un an de plus, président de Sciences Po, rentre et je vais à Sciences Po après, comme ça.
Sans projet.
Non, le seul projet vague, c'est que j'avais envie de devenir journaliste, mais journaliste à l'ancienne, en quelque sorte, grand reporter, parce que mes parents étaient très amis avec des gens extraordinaires comme Jean Lacouture, ou encore sur un autre modèle, Tibor Mande, ou bien Claude Julien, qui était important au Monde à l'époque. Enfin, j'en cite 3-4, mais je pourrais en citer 10 ou 15, vous voyez. Et donc, ça me paraissait intéressant, amusant.
Aller sur le terrain avec votre stylo.
Voir, voyager. Et puis, j'avais un esprit, état d'esprit un peu routard à l'époque. J'ai par exemple été, ça c'est un peu après, mais j'ai été en Afghanistan en voiture, vous voyez. J'ai fait le trajet qui est prodigieusement décrit par Nicolas Bouvier, que j'avais pas lu avant d'y aller, mais que j'ai lu après. Donc, c'est ça mon état d'esprit. Vous voyez, c'est pas centré sur quelque chose de particulier.
Et les grands espaces, cette passion des grands espaces vous conduit aussi vers la passion des westerns, Hubert Védrine.
Les westerns, les voyages, les épopées, les découvertes.
The Big Country de William Wyler. C'est une musique de Jérôme Moros. Hubert Védrine, vous parliez tout à l'heure du fait que vous n'étiez pas cinéphile. Néanmoins, ça fait quand même trois musiques de films qu'on écoute depuis tout à l'heure.
Je ne suis pas un cinéphile spécialisé. Je me rappelle quand on était au lycée, on allait écouter à l'Alcazar à Asnières un expert qui était envoyé par la revue Télérama, déjà. Ouais. Il s'appelait Jean Collet, je crois. Alors lui, c'était un expert extraordinaire. Il connaissait chaque œuvre de chaque metteur en scène, avec les dates, les acteurs. Je suis pas du tout ça. Je prétends pas être ça. Je suis, comme tout le monde, quelqu'un qui a eu des émotions fortes avec les films, et souvent liées à des musiques. Et dans ce cas, c'est d'abord la passion pour le western. Alors, j'adore le côté drame classique, comme les tragédies grecques. Dans les westerns, il y a une sorte de fatalité qui se déploie, qui est fascinante. Et dans l'histoire des grands espaces, c'est en fait ces deux familles d'éleveurs qui contrôlent une région et qui se battent pour l'accès au point d'eau. Et le Major Terrill, qui est la grande famille riche de l'époque, le grand propriétaire en fait, de l'endroit, dont la fille aînée qui va hériter, qui est une sorte de pain bêche, on en a dit à l'époque, est follement amoureuse d'un officier marin, c'est Gregory Peck, donc on comprend qu'elle soit amoureuse en plus. Et elle l'a découvert à Boston, il arrive là, il n'est pas au courant, et il s'aperçoit que la famille Terrill est une famille féroce qui veut absolument couper la famille Anacé, c'est les autres, des points d'eau, et que donc les bêtes vont mourir. En même temps, les Anacé sont des grosses bêtes au sens propre, brutal, vulgaire, agressif. Il ne veut pas prendre parti, il va essayer de... Donc il y a une dimension géopolitique, vous voyez ?
Là encore.
Déjà. Donc il y a la bataille pour un accès stratégique, comme pour un détroit, comme pour une zone clé. Pour ça, je l'ai vu après, mais pour le moment, à l'époque, je suis emporté par le côté aventure. Et puis je découvre la musique. Je pense que quand j'ai été le voir au début, je ne savais même pas qu'il avait fait la musique. Et c'est quand quelques années après j'entends la musique que ça réveille en moi tout ça et que je m'aperçois que c'est lié là aussi, comme dans Le Guépard dont nous parlions.
Oui. Quand vous avez finalement intégré Sciences Po et puis après l'ENA, est-ce que petit à petit vous disiez que vous étiez en décalage, vous avez ressenti une façon de vous recaler avec le monde dans ce choix d'études?
Ah, je ne me suis jamais senti décalé avec le monde. Enfin, je m'ennuyais beaucoup avec les gens de ma génération, en général. J'ai trouvé beaucoup d'intérêt à rencontrer des gens plus âgés ou qui avaient eu des vies exemplaires ou aventureuses ou extraordinaires. Donc, je passais un temps considérable de mon enfance et de mon adolescence à écouter des gens qui racontaient leur vie, vous voyez. Donc, j'adorais ça. Et ça donnait le sentiment qu'en effet, tout est possible si on veut, vous voyez. Les épopées sont là, à portée de la main, les aventures. Donc, je vivais comme ça. À Sciences Po, j'ai pas tellement aimé Sciences Po à l'époque, j'aime bien, d'ailleurs je fais des séminaires à Sciences Po aujourd'hui, mais à l'époque c'était quand même rempli de petits vieux avec des costumes trois pièces ridicules, qui préparaient des concours difficiles. Je pensais pas une seconde à présenter l'ENA, ce qui m'est venu après comme un défi, comme idée. Donc j'étais pas programmé pour ça. Et d'ailleurs, à l'époque, je gardais toutes mes relations, mes amitiés, mes voyages, mes amours, mais tout, c'était à Bois-Colombes. En fait, c'était autour de ce groupe de Bois-Colombes.
Ça a duré longtemps,
comme on dirait,
ça
Bloomsbury. Bah jusqu'à ce que je, sur un coup de dé, je me dis, tiens, je vais quand même tenter le concours d'entrée à l'ENA.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few. But then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times
sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not.
Sinatra, My Way, c'est, vous le disiez, Hubert Védrine, en l'écoutant, que c'était pour vous, ça vous sert d'euphorisant.
Oui, tardif, parce que j'ai découvert ça assez tard, en fait. C'est pas du tout mon enfance, ni mon adolescence.
Alors que
ni
ça
même
aurait
après,
pu.
J'étais pris par Sciences Po, l'ENA, etc., les stages et la suite. C'est après, en fait. Ma mère aimait Frank Sinatra, mais c'est plus tard, j'étais plus à la maison, c'est mon jeune frère qui me dit ça. Et puis, il y en a plein d'autres que j'aime. J'adore Dean Martin, Nat King Cole, il y a des titres magnifiques. Enfin, j'adore les crooners, mais en même temps, c'est toute une époque. Enfin, c'est l'Amérique un peu imaginaire aussi. Donc, c'est des années 50-60. Et puis, un jour, quelqu'un m'a fait écouter ça. J'étais saisi par la perfection, enfin, de la voix, the voice, enfin, la technique, la maîtrise, tout, le rythme. Et c'est après, simplement, que j'ai découvert que ça avait été un titre de Polanka chanté par Claude François. Je ne savais pas. Et ça m'accompagne depuis. Donc, c'est fait maintenant, quand même, une trentaine d'années que cette voix-là, ce genre de chanteur est présent pour moi. C'est intemporel.
En fait, c'est comme si vous aviez découvert sur le tard des titres de votre jeunesse. Parce que là, c'est en temps normal, vous auriez pu les découvrir en étant adolescent.
Oui, mais tout ce que j'ai entendu de mon adolescence, de tout ça, ce qui me reste comme attachement, c'est les titres de Françoise Hardy. En plus, je la connais, je l'aime beaucoup. Mmh. Et tout le reste a disparu dans le lointain. J'ai réécouté le dernier disque de Johnny Hallyday. Bon, ça m'a rien fait, en fait. Même s'il y a quelques titres que j'avais aimés à l'époque, mais c'est tout un environnement qui a disparu. Et puis, en fait, j'ai passé un temps tellement considérable à lire, à discuter de mes lectures, à m'occuper de la gestion du club UNESCO, à préparer des voyages, des conférences. J'avais une activité sociale, on va dire, de lycéens. Donc il y a plein de choses qui ont énormément marqué plein de gens de ma génération que je n'ai découvert que longtemps après. Mais c'est pas mal cette distance.
Oui. Et 34 ans, c'est l'âge auquel vous découvrez aussi l'opéra, je crois.
C'est l'âge où je suis appelé à l'Élysée par François Mitterrand.
Et de fait...
Non, j'étais à l'opéra avant, mais peu.
Die es treu und redlich war.
es ihr durch tausend Küsse, mach ihr all das Leben süße, sei ihr Tröster, sei ihr Freund, sei ihr Tröster, sei ihr Freund.
Hey, Freund, ist das nicht das Landhaus des Wasser Selim?
Doch sie träumt sich zu erhalten, schließt er Liebchen sorglich ein. Wenn die losen Dinger haschen, jeden Schmetterling und naschen, gar so gern von fremden Wein, gar so gern von fremden Wein, vom Fremden.
Nicht. Ist hier des Wassers Seel im Palast?
Sonderlich beim Mondenscheine, Freunde, nehmt sie wohl in Acht. Oft lauscht da ein junges Herrchen, dir dort lockt das kleine Närrchen. Und dann treue gute Nacht, und dann treue gute Nacht.
Ich bin ein
Sehner,
nur schon müde. So
hör
doch nur ein einzig
Spaß. Seht ihr, lasst ihr euch gerüsten, euch zu ergreifen, euch zu brüsten. Was wollt ihr, was wollt ihr, was wollt ihr? Hurtig, ich muss fort. Hurtig, ich muss fort.
Ist das des Wassers Seel im Haus? Ist das des Wassers Seel im Haus?
Das ist des Wassers Seel im Haus.
So wartet doch,
ich kann nicht weinen,
mein Port.
Geschwinde, ich muss eilen.
So wartet doch,
ich kann nicht weinen, Port. Geschwinde, ich muss eilen.
Seid ihr in seinen Diensten, Freund? Seid ihr in seinen Diensten, Freund? Seid ihr in seinen Diensten, Freund?
Ich bin in seinem Diensten, Freund.
Wie kann ich den Petrill wohl sprechen, der hier in seinen Diensten steht?
Den Schurken, der den Hals soll brechen. Sieht selber zu, sieht selber zu, wenn's anders geht. Sieht selber zu, wenn's anders geht.
Was für ein alter Pennen,
das ist ja so ein Galgenschwengen.
Was für ein alter Pennen,
das ist ja so ein Galgenschwengen. Das ist so mein Galgenschwengel, das ist so mein Galgenschwengel.
Ihr Hirt, es ist ein Brav.
So brav, so brav, so brav, dass man ihn spießen kann.
Ihr müsst ihn gar nicht erkennen, ihr müsst ihn gar nicht
erkennen,
ihr müsst ihn gar nicht erkennen.
Fort,
ist ein Besessen, spricht von der Karte, nicht so vermessen, jetzt haben wir
Le duo Osmine Belmonte de l'acte 1, l'enlèvement au sérail de Mozart, dans cette très belle version par l'Académie für Alte Musik de Berlin, sous la direction de René Jacobs. Alors, c'est la grande œuvre en allemand de Mozart, au moment où il s'affranchit à la fois de la tutelle de son employeur Colloredo et celle de son père, en épousant notamment Constance Weber. L'enlèvement au sérail, Hubert Védrine, c'est pour évoquer ce tournant de votre vie où vous êtes appelé à l'Élysée par
non,
François
c'est un
Mitterrand.
Hasard, ça. C'est un hasard, parce qu'en fait, j'ai découvert l'opéra grâce à un ami malheureusement disparu, Alexandre Mélissinos, qui a nous invité, ma femme et moi, à voir Nabucco et beaucoup de grands Verdi. Mmh. C'est plutôt par Verdi que j'ai commencé, ou par Carmen. Et puis après, j'ai découvert Mozart, notamment l'enlèvement au sérail, et je suis un familier depuis très très longtemps du Festival d'Aix. Donc c'est toute la période qui suit de ma vie où il y a cette présence de Verdi, de Puccini, de Bellini, de Rossini, de Mozart, de Wagner, etc. Ça n'a pas cessé après. Et j'ai découvert à travers ça, quelque chose, enfin, c'était banalité, mais la combinaison dans l'opéra de la mise en scène, des voix, je me rappelle de la couture, disant l'instrument.
Jean Lacouture.
Jean Lacouture, oui. Ouais. Parce qu'on allait très souvent, soit à Orange, soit à Aix avec lui, disant quand même la voix humaine est le plus sublime des instruments. En termes d'émotion que cela peut procurer, en termes de fragilité, il y a un élément de. C'est périlleux en même temps. Et quand on entend les voix qui montent ou les basses extraordinaires. Donc ça fait partie de ma vie depuis 40 ans maintenant.
D'accord. Et ce moment alors où François Mitterrand vous appelle à l'Élysée, vous avez 34 ans,
Hubert
Védrine.
Oui, 34 ans.
Vous vous souvenez du coup de fil, de comment ça s'est passé
Ah, c'est pas un coup de fil, mais ça n'a aucun rapport avec notre sujet d'aujourd'hui.
Mais oui, mais on peut en parler.
J'ai raconté, moi j'étais François Mitterrand et mon père étaient amis intimes. J'avais déjà fait la campagne présidentielle de 1974, mais après j'avais mené ma vie d'énarque, qui avait démarré au ministère de la Culture, puis à l'équipement, puis au Quai d'Orsay, mais enfin j'étais en relation avec François Mitterrand. Il voulait faire de moi son successeur dans la Nièvre, pour quand il serait élu. Et donc il m'avait forcé en quelque sorte à me laisser élire député suppléant du député-maire de Nevers. Mmh. Ça c'était en 78. Mais Dieu merci, le 10 mai 81, on était à Château-Chinon, on avait voté dans la commune où j'étais devenu conseiller municipal Saint-Léger-des-Vignes. Michel, ma femme, m'a dit on peut pas rentrer à Paris sans aller à Château-Chinon. Je voulais pas gêner Mitterrand. Enfin, on y était grâce à elle. Et c'est à Château-Chinon le 10 mai que d'abord il vient vers nous en se prenant la tête entre les mains et en disant vous vous rendez compte de ce qui nous arrive. Et puis après, tout de suite après, il me dit vous prendrez contact demain avec mademoiselle Papeguet qui était sa secrétaire principale à l'époque. J'appelais le lendemain et qui m'a dit tu dois aller à l'antenne présidentielle, voir Bérégovoy, blablabla. Il y a un enchaînement que j'ai raconté dans différents petits livres. Mmh. Mais ça n'a aucun rapport avec la musique. Ça serait normalement dû me couper de la musique au moment où justement j'entrais plus dans ce monde de la grande musique, de l'opéra. Mais comme dans ce genre de vie, on est un peu plus invité, disons, et puis qu'il y avait une loge, je sais pas si elle existe encore, à l'opéra et que tout le monde voulait prendre, mais donc on s'inscrivait pour avoir droit d'aller voir un spectacle. Ça m'a plutôt donné l'occasion d'entretenir ce goût naissant, enfin de faire naître ce goût naissant pour l'opéra.
Waltraud Meyer interprète donc cette mort d'Isolde de Richard Wagner, de Tristan et Isolde, avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la direction de Laurine Maazel. Alors cette mort d'amour, hein, ce Liebestod, c'est vraiment la figure dramatique totale de cette œuvre de Richard Wagner, Tristan et Isolde. Et c'est, je crois, Hubert Védrine, ce que vous préférez.
C'est le morceau, le passage que je trouve le plus émouvant, le plus touchant. Je trouve que ça fait froid dans le dos de beauté. Et je suis venu à ça, pas parce que je suis pas spécialement wagnérien. Et encore une fois, c'est vraiment, c'est pas du tout la démarche que j'ai quand je parle de géopolitique, où je suis quand même hyper rationnel, en fait. Mais dans le reste, c'est la sensibilité d'abord.
Oui.
Et avant tout. Donc c'est en écoutant ça, c'est sublime. Ça fait partie de cet amour de l'opéra que j'ai développé après, depuis une trentaine d'années. Mais il y a quelque chose qui, dans tout cet ensemble, qui est devenu une composante de ma vie, il y a deux, trois perles absolues qui émergent, dont ça.
Avec cet érotisme de la mort et de l'amour.
C'est mêlé, quoi.
Ouais.
Oui.
Et ce rapport à la voix, parce que entre la version orchestrale et la version vocale, il n'y a pas pour vous de possibilité autre que la version vocale, Hubert Védrine.
La version orchestrale est magnifique. La musique de Wagner est magnifique, mais je trouve que ce qui crée cette espèce d'impression incroyable, comparable à rien, c'est la voix, cette voix-là.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Et évidemment, Hubert Védrine, on a quand même envie de raccrocher les wagons entre eux. Alors, il y a cette
ce Liebestod. Ce soit possible.
On va essayer. En 97, après donc la victoire du PS aux législatives, Lionel Jospin vous choisit et le président Jacques Chirac vous nomme donc ministre des Affaires étrangères. Vous allez conserver cette fonction pendant 5 ans, jusqu'au terme de la cohabitation en 2002. Est-ce que ces moments très très forts de votre vie sont des moments où justement la musique vous permet de soit de respirer, soit au contraire, ça vous emmène vers d'autres musiques, Hubert Védrine?
Ça ne m'a pas coupé. Par exemple, c'est à cette époque-là que, sur le conseil d'une amie, j'ai commencé à mettre TSF jazz, enfin du jazz, on va dire.
Oui.
Et quand je circulais en voiture, enfin dans la voiture ministérielle, tout en travaillant, tout en téléphonant, etc., ça ne m'a pas empêché de continuer à aller à l'opéra. Régulièrement, moins souvent, mais alors je dois dire c'est pas bien du tout, mais on me réservait une place et ça m'est arrivé souvent de venir écouter un acte puis de repartir.
Oui.
Ou bien deuxième acte, troisième acte, parce que je pouvais pas faire autrement, parce qu'il y avait un dîner impossible à éviter entièrement, parce qu'il y avait un rendez-vous téléphonique, etc., etc. Mais j'ai pas coupé le lien, pas un point à ça.
Interprété par Fairouz, extrait du disque Good Friday. Alors j'ai cru que c'était le fait d'être au Quai d'Orsay, Hubert Védrine, qui vous a permis d'ouvrir votre horizon musical, mais non, ça date d'avant.
Mais non, heureusement que je n'ai pas dû attendre d'arriver au Quai d'Orsay pour m'intéresser.
C'est vrai que ça aurait été un peu tard.
À d'autres musiques, dans mes voyages nombreux en Afrique ou en Orient, j'avais entendu des musiques traditionnel, mais ça j'ai découvert très longtemps avant. C'était, je crois que j'étais adolescent, c'est en effet une messe du Vendredi Saint en arabe, chantée par Fairouz.
Cette grande cantatrice libanaise.
très grande cantatrice, puis on entend la résonance dans l'église, c'est magnifique. Oui. Ça m'avait accompagné. Donc je suis arrivé avec déjà ce bagage relativement éclectique.
Oui.
À l'époque du Quai d'Orsay, parce que ce qu'on entend quand on est un ministre en exercice, c'est plutôt des hymnes officiels, dont certains sont sublimes, dont d'autres sont insupportables à écouter.
Oui.
Ou alors des artistes qu'on invite dans des banquets officiels. Enfin, ça, en gros, ça n'a pas d'intérêt. Donc il vaut mieux avoir découvert ça avant.
Oui, et alors, ces musiques du monde, c'est quoi? C'est une ouverture. Est-ce que ça permet de s'ouvrir aussi sur les cultures diverses et variées du monde, Hubert Védrine?
Ben, y a des gens qui ont le goût des cultures, donc ils vont lire les romans des autres, ils vont lire tout, enfin les poètes, ils vont écouter les musiques. C'est comme en matière de cuisine et de gastronomie. Il y a les gens qui ont ce goût, plus ou moins. Il y a des gens qui sont même des boulimiques de ça, qui veulent connaître toutes les cultures, toutes les musiques. Est-ce que ça apaise les mœurs, comme on le dit en général de la musique, l'histoire ne le prouve pas, hein, ne le démontre pas. Donc les gens font pas parce que ça a une fonction pacificatrice ou politique ou utile, les gens font ça parce qu'ils aiment ça, c'est tout. On aime ces musiques ou on les aime pas, on aime découvrir ou on n'aime pas découvrir. Mais on peut pas, par la musique, on peut exalter, je pense, des sentiments un peu violents, on peut exciter les passions par la musique, on peut peut-être calmer en effet... Hein, on utilise ça dans certains établissements hospitaliers. Je crois que dans les étables, les vaches se portent mieux, le lait meilleur s'il y a de la musique en fond. Bon, c'est une fonction apaisante, c'est évident. Mais on ne peut pas régler les problèmes sérieux que l'espèce humaine a depuis toujours à organiser sa vie sociale et politique, etc. Il ne faut pas rêver. Mon idée simple, c'est que c'est une passion, c'est un plaisir. Ce n'est pas parce que ça va permettre de je ne sais pas quoi, vous voyez. Donc il faut aimer la musique pour la sensation que ça vous procure, pas dans l'espoir que ça va régler des problèmes par ailleurs insolubles.
Et aussi parfois par curiosité, comme dans le cas de Puccini,
curiosité quand il et passion, a mélangé.
Composé Madame Butterfly.
Sei mia,
Vogliate mi bene de l'acte 1 de Madame Butterfly de Puccini, ce duo terrible dans lequel Pinkerton promet à Butterfly des merveilles, interprété ici par Angela Gheorghiu et Jonas Kaufmann avec l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome sous la direction d'Antonio Papano. Hébert Védrine, c'est tragique cette histoire de Madame Butterfly.
Oui, c'est tragique. C'est un marin américain qui se comporte mal, qui abuse de la confiance et de la crédulité de cette jeune japonaise. Mmh. On voit bien comment ça serait interprété, surinterprété. Aujourd'hui, ça serait peut-être interdit, selon la façon dont ça serait perçu. Bon, sauf si c'était perçu que comme une dénonciation.
Ouais.
Enfin, on est dans un monde où le totalitarisme se reforme sous d'autres visages. Mmh. Mais en tout cas, c'est très prenant, c'est très émouvant. Et je suis content que vous ayez choisi parmi d'autres cet extrait, parce que moi je l'avais entendu comme ça, mais la seule fois où je l'ai vu en fait, c'est il y a quelques années au festival de Santa Fe, dans cet opéra magnifique que vous connaissez peut-être, qui est à l'extérieur de Santa Fe, qui est à moitié en plein air.
En plein air,
en
oui.
Fait. Magnifique. C'est la seule fois où je l'ai vu en vrai, en entier.
Et vous disiez que ça pourrait être interdit. Effectivement, on est là. En tout cas, on est dans des sujets qui peuvent vous intéresser, vous, spécialiste de toutes ces questions diplomatiques. Et notamment, là, on est dans une forme de colonialisme américain, de promesse d'un monde meilleur qui, bien sûr, n'arrive jamais.
C'est un abus individuel, là.
Ouais.
Mais c'est un exemple de domination, mais je ne suis pas spécialiste de toutes les dominations réelles ou ressenties, hein, c'est autre chose. Je suis devenu spécialiste des relations internationales, de la géopolitique, des politiques étrangères, des grands pays au XXe siècle, mais c'est tout à fait différent. Donc je faisais une allusion au passage, pour dire que Dieu sait comment seraient interprétés la plupart de ces œuvres. Mais on peut prendre la liste des grands compositeurs qu'on a fait ensemble tout à l'heure. Quelles sont les œuvres, quels sont les sujets qui franchiraient le cap des nouvelles censures qui se recréent? Pas beaucoup, hein. Je pense qu'il y a la même quantité de tabous, en fait, dans les sociétés.
Qui se reproduisent au fur et au fil
changent,
du temps.
Qui changent complètement de domaine. Il y a une époque, le sexe est un tabou absolu. Et puis, il y a une autre époque où c'est presque impossible de ne pas parler de sexe, et c'est même suspect de ne pas en parler, etc. Il y a des époques où l'argent est un tabou absolu, ou pas du tout. Bon. Mais finalement, il faudrait demander ça non seulement à des psys, mais à des ethnologues.
Oui.
Je pense que la quantité de tabous dont les sociétés ont besoin pour fonctionner doit être au total à peu près constante.
Et le tabou absolu aujourd'hui, ça serait, vous pourriez le définir, Hubert
Védrine? C'est à l'intérieur de la déconstruction généralisée de la civilisation occidentale des 3 ou 4 derniers siècles, qui en général découle de l'interprétation juste ou erronée de penseurs comme Foucault, Derrida, Althusser, passée par le passage des campus américains. Pas oublier que c'est un pays fondé par des sectes, les États-Unis, et ça nous revient sous forme de pluie acide moralisatrice.
Marseillaise interprétée par Jesse Norman et l'orchestre et le chœur de Paris sous la direction de Semyon Bychkov. Ça nous renvoie à un événement précis, Hubert Védrine.
Un événement précis, parce que je suis pas un fanat de la Marseillaise en général, surtout des textes encore, qu'il faut pas se scandaliser quand il y a des paroles qui sont liées à un contexte très particulier, de qui est le sang impur qui doit abreuver nos sillons. Bon, on est dans un contexte très 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 spécial, mais ce moment pour moi est important parce que c'est Jessie Norman qui chante sur la place de la Concorde à l'occasion du bicentenaire de la Révolution de 1789, pas 93, 89. Donc il y a François Mitterrand, il y a Georges Bush père qui vient de décéder en décembre dernier, il y a tous les dirigeants de la planète de l'époque. Mais je dois vous dire que dans la vie au pouvoir que j'ai menée pendant longtemps, j'ai découvert à l'oreille qu'il y a plusieurs hymnes nationaux que je trouvais beaux. Ça peut étonner certains de ceux qui nous écoutent, mais par exemple la bannière étoilée. Oui. L'hymne américain, qui a d'ailleurs été élaboré en plusieurs fois entre 1780, 1814, 1931. C'est un beau texte. Le God Save the Queen, ou The King, ça dépend. Ça vient d'une musique de Lully, c'est passé par toutes sortes de filtres entre-temps. Mais c'est assez émouvant, à certains moments. Mais c'est assez beau. C'est pas entraînant que le Marseillaise, c'est pas un chant guerrier, en fait. Mais voilà, il faut pas écarter complètement ce secteur-là de la curiosité musicale.
Alors vous qui avez créé en 2003 Hubert Védrine une société de conseil en stratégie géopolitique, est-ce que, puisqu'on parle des hymnes nationaux, est-ce que le rayonnement de la France à l'international vous préoccupe aussi sur un plan musical? Je pense à Berlioz, là, dont on célèbre le 150e anniversaire de la disparition au mois de mars. Voilà, est-ce que ce rayonnement de la France reste un sujet, un enjeu aujourd'hui?
Vous citez Berlioz, donc 150 ans. On aurait pu citer Bizet, qui aurait été un géant de la musique, s'il n'était pas mort aussitôt. Mais le rayonnement de la France, il faut... Alors là, on va revenir sur un terrain géopolitique. L'Occident a conduit les affaires du monde pendant 3-4 siècles. C'est terminé. L'Occident ne conduit plus seul, il a perdu le monopole. Nous, on fait partie de l'Occident, même si on est des Occidentaux, et même des Européens un peu particuliers, avec une vision... facilement exalté de notre rôle, etc. C'est différent. Il faut qu'on s'adapte à un monde dans lequel le rôle des Occidentaux n'est pas terminé, contrairement à ce que disent les théoriciens asiatiques, mais on n'a plus le monopole. Donc il y a les autres. Donc il faut qu'on s'adapte à ça, y compris la France. Donc il faut qu'on devienne des choses qui sont pas tout à fait dans notre ADN, c'est-à-dire peut-être plus modeste, plus pragmatique, des choses comme ça. Ça veut pas dire que ça va empêcher d'immenses talents de ressurgir, comme les deux que nous citons. Mais il faut remettre ça dans ce contexte. Il ne faut pas dire qui est Berlioz aujourd'hui, vous voyez. C'est plus compliqué.
On va essayer de rêver un peu avec la symphonie fantastique pour se quitter.
Projetons-nous dans le passé.
Voilà. Merci beaucoup Hubert Védrine d'être venu partager cette heure et demie en notre compagnie. Ça a été un plaisir.
Partager, ça passe vite avec vous.
Merci. C'était la marche au supplice de la symphonie fantastique de Berlioz, interprétée par l'Orchestre national de France sous la direction de James Conlon, pour terminer cette émission en compagnie d'Hubert Védrine, qui était donc l'invité de Musique et Moi ce matin. Vous pouvez vous rendre sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et Moi pour retrouver toutes les informations concernant les titres diffusés au cours de cette émission. C'était Jean-Michel Bernaud qui était à la prise de son. L'émission est réalisée par Sophie Pichon avec Marie-Ferdinand, attachée de production. Je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute de France Musique. On se retrouve dimanche prochain, 11h.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.